Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je pense que je me considère comme un infiltré dans le domaine de la presse mode slash féminine. De par mes rencontres, mes lectures, mes expériences, je pense que je me suis éveillé à certaines thématiques et à certains sujets, comme on dit sur Twitter, de social justice, toutes les questions de racisme, d'LGBT-phobie, de féminisme. Je pense qu'en tout cas, dans mon travail et dans les choses que j'écris, et dans même les gens que je côtoie au travail, j'essaye, dès que je peux, et à mon niveau, d'injecter justement tout ce en quoi je crois pour une société plus égalitaire possible.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Alors, je m'appelle Paul Arthur, j'ai 24 ans, je suis journaliste, j'habite à Paris. Mes parents, au niveau de mes parents, mon père est de Guyane et ma mère est du Cameroun. Donc moi, je suis né au Cameroun, j'y ai grandi jusqu'à mes 13 ans, avant d'aller habiter en Belgique pour faire tout mon lycée. Et ensuite, je suis revenu à Paris. Et en gros, quand je dis que j'ai grandi au Cameroun, c'est à la fois vrai, à la fois pas vrai, parce que vu que mes parents sont séparés assez tôt, j'ai grandi entre le Cameroun et Paris. C'est-à-dire qu'on passait avec ma petite sœur l'année scolaire au Cameroun et l'été à Paris.
Et tu te sentais aussi à l'aise à Paris qu'au Cameroun ?
Je veux dire, en grandissant, c'est pas des questions que je me posais, parce qu'au final, pour moi, c'était devenu assez normal de 9 mois au Cameroun, 3 mois de vacances au Cameroun, c'est 3 mois de vacances. 3 mois de vacances en France, à Paris surtout. En fait, je crois que j'avais intégré que de toute façon, c'était deux environnements différents, et du coup, je me comportais différemment dans les deux environnements. C'est-à-dire même au niveau de la façon dont je m'exprime. Au Cameroun, je parlais avec un accent camerounais. Et comme quand je parlais avec ma mère, je parlais avec un accent camerounais, avec mon père, avec un accent de Paris. Et je faisais vraiment cette différence-là, mais d'aussi longtemps que je me souvienne. Donc, en grandissant, non. En tout cas, quand je faisais ces allers-retours-là, pas vraiment. Je me rendais pas compte des différences entre de comment j'étais traité, comment j'étais considéré, je le réalisais pas, en tout cas vraiment dans cette période, quand je vivais encore entre les deux. J'ai vraiment ressenti la différence une fois que j'ai commencé à vivre en Europe, mais c'était pas du coup à Paris, c'était en Belgique, à Namur, dans une petite ville dans la partie francophone. Et là, tout de suite, en gros, tu vois que la différence entre les noirs et les blancs, je l'ai toujours vu, mais je l'ai vu différemment une fois que je suis arrivé en Belgique. C'était, ah, ok, t'es noir et les autres sont blancs, et il y a un problème. Il y a un problème parce que ils te font sentir que t'es moins qu'eux, oui, ben, littéralement, t'es moins qu'eux. Mais voilà, tu viens d'ailleurs, donc ça, tu connais pas forcément, ça, c'est pas ta culture, ça, c'est difficile d'avoir accès à ça pour toi.
Et quand t'étais au Cameroun, est-ce que t'étais considéré différemment, justement, parce que tu faisais cette navette entre l'Europe et l'Afrique régulièrement?
Oui.
Et que t'étais métisse aussi, quelque part?
Ah oui, de toute façon, moi, au Cameroun, aussi bien ma sœur que moi, on était des enfants de blanc, parce que notre père était de, bien qu'étant noir, était de France. Je sais pas si c'est clair.
Du coup, t'es blanc?
Je pense que j'ai toujours été considéré comme, en tout cas, en grandissant au Cameroun, comme un enfant de France en partie, surtout dans ma famille. La famille proche des cousins, des tantes, c'était ton père est de France, bien que noir. Donc t'es un enfant de blanc, tout simplement. Et surtout, en faisant la navette, quand je rentre au Cameroun, j'avais quand même je chopais des tics, des manières de parler d'ici, de Paris, du coup. Et j'ai toujours été un peu considéré comme un étranger au Cameroun, sans vraiment l'être. dans le sens où c'est mon pays, mais j'avais ce truc d'enfant d'ailleurs quand même, mais qui était pas, c'était pas une violence, c'était limite une admiration.
Et comment ça se manifestait au quotidien, par exemple?
Au Cameroun, t'as beaucoup de plats qui sont faits à base de légumes, et c'est vrai que du fait, du coup, je les mangeais pas. Et j'avais vraiment cette remarque-là de aussi bien de mes tantes, par exemple, ou même quand j'allais chez des amis à dire « Ah non, je mange pas ça », genre bah, parce que ouais, t'es un enfant de blanc, quoi. Tu vois, ce genre de truc, t'es tout de suite catalogué à autre chose de par l'origine de ton père, entre guillemets. D'autres cas, bah, c'est aussi mon nom de famille qui a un nom, du coup, à consonance, enfin, c'est un prénom, c'est Jean-Marie. Donc, ça ressemble pas aux autres noms de famille sur place. Tout de suite, on dit, mais, enfin, pourquoi tu t'appelles Jean-Marie? Pourquoi t'as pas un nom, camerounais? Du coup, c'est des justifications et t'es tout de suite catalogué et tout de suite, on te fait sentir que, bah, t'es d'ailleurs, quoi. Ouais. Mais encore une fois, c'était pas une.
Une tare.
Voilà. C'était pas une tare, c'était pas un avantage, mais en tout cas...
C'était pas un avantage. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une forme d'admiration, c'était...
Oui, mais est-ce que l'admiration est un avantage?
À te de nous dire.
Oui, du coup, oui, c'est vrai que ça pouvait être un avantage, mais je le vivais pas comme ça.
Pourquoi? Est-ce que, d'ailleurs, toi, t'avais... C'était quoi ton rapport au blanc, à l'Europe? Est-ce que c'était quelque chose que t'admirais ou c'était juste banal?
Alors, en grandissant au Cameroun, le rapport au blanc, pour moi, c'est juste des personnes qui ont pas la même couleur de peau. Je vivais comme un blanc, un enfant de blanc expatrié, par exemple, au Cameroun. J'allais, c'est des choses qui vont paraître bêtes, mais j'allais à la piscine, j'allais au club de tennis, où je côtoyais, du coup, des enfants d'expatriés blancs. Et pour moi, il n'y avait pas de différence, de traitement, de possibilité dans la vie. Et quand je venais à Paris, quand j'étais plus jeune, encore une fois, c'était des notions que j'avais pas forcément quand t'es un jeune, que tu grandis. Et c'était pareil. Donc jusque là, jusqu'à ce que je vienne habiter définitivement en Europe, c'était juste une différence de couleur de peau.
Et tu te sentais aussi à l'aise avec des noirs ou des blancs ou peu importe en fait?
Vraiment, si ça va être un paraître un bateau, je voyais pas les couleurs de peau. Je les voyais parce que c'était physique, mais je voyais pas tout ce qui en sent, tout ce qu'il y avait derrière. Elle vient vraiment quand je vis ici, quand je suis dans un contexte de t'es un adolescent, tu comprends plus les choses, et là tu vois vraiment les différences de traitement, bah, de l'extérieur, de comment les professeurs te traitent par rapport tous les a priori que les professeurs ont sur toi aussi, les étonnements de ah bah tu viens du Cameroun, tu parles bien français, ces surprises en fait que tu sois quelqu'un de bah d'intelligent, de potentiellement cultivé alors que tu viens du Cameroun. Donc là c'est les premières questions que tu poses, tu te dis mais pourquoi est-ce que je parlerais pas bien français? Je l'ai toujours parlé toute ma vie, donc je vois pas pourquoi est-ce que je parlerais pas bien français.
Et t'as quel âge quand t'arrives en Belgique?
13 ans, je vais sur mes 14 ans.
Qu'est-ce que tu ressens quand t'arrives?
Alors c'était un sentiment mitigé parce que, en fait, il y avait une de mes meilleures amies avec qui je vis au Cameroun qui allait habiter en France. Et je sais pas, en moi, ça a créé une sorte de jalousie. Je sais bah ouais, moi aussi, je vais aller vivre en Europe et je vais aller vivre avec papa à Paris. Je dis ça à ma mère. En fait, dans l'éducation que j'ai eue, ma mère, c'était le parent dur et mon père, le parent plus, entre guillemets, laxiste. Qui est... Et du coup, ma mère, elle a vu comme quelque chose où je pensais que j'allais aller vivre à Paris avec mon père et ça allait être la fiesta. Elle m'a dit, bon, ok, tu vas aller vivre en Europe. Elle m'a trouvé un bon petit collège en internat catho à Namur. Bah, j'y suis allé et elle m'a dit, bah, tira là et c'est une super bonne école et tu feras de super bonnes études, c'est ce que tu voulais. Donc, bah, voilà. Je suis content dans l'idée de venir vivre en Europe parce que ça va être quelque chose de différent. Et puis, et en soi, je suis content d'intégrer une école avec un haut niveau parce que bon, c'est l'espèce de petite prétention que tu peux avoir quand t'as un enfant qui s'en sort bien à l'école. C'est, bah, je veux toujours plus. Et moi, en même temps, je me dis, putain, me retrouver à Namur... dans un collège catho, bon bah, bof quoi, à quoi je peux m'attendre. Et...
Toi-même, t'étais religieux?
J'ai une mère qui est très catholique, qui va à l'église tous les jours presque, tous les midis. Et donc, je grandis avec une éducation catholique, c'est-à-dire que je suis baptisé, confirmé, et tout blabla, je m'en rappelle même plus. Et à cette époque-là, oui, je croyais en Dieu, mais sans être plus concerné que ça. Donc je priais les soirs parce que ma mère me disait qu'il fallait prier le soir. Et ça commence à changer à ce moment-là, mais ça change aussi en même temps que je me découvre homosexuel. Dans le sens où bah forcément quand tu grandis dans une éducation catholique, tu sais que bah l'homosexualité c'est mal, c'est un péché, tu vas brûler en enfer, etc. Et donc c'est des trucs que j'avais vraiment intégrés, sauf que à côté de ça bah t'as tes hormones qui te rappelle à ce que tu es, tout simplement. Et donc, les questionnements sur ma sexualité sont en parallèle de mes questionnements, justement, sur mon rapport à la foi et à la religion. Donc, au départ, ça va être de prier pour ne pas être gay, parce que tu sais que ta mère va pas apprécier, que ta famille va pas apprécier, et puis que c'est mal, tout simplement, sociétalement. Sauf que ça ne fonctionne pas. T'as toujours ton attirance pour les garçons que tu vois, et je pense que il y a plusieurs étapes, c'est que tu dis, bah, si je suis comme ça, c'est que peut-être que Dieu a voulu que je sois comme ça. Mais non. Quand tu lis ce qu'on te dit et quand t'entends ce qui vient du clore clérical, c'est non. Donc c'est un espèce de mindfuck dans ta tête, tu dis, mais où est-ce que je me place? Et moi, j'avais un cours de religion, en fait, en Belgique, que dans mon lycée, mais c'était pas de la religion, genre du catéchisme, c'était plutôt de l'étude des religions, et surtout, ça remettait, c'est ce que j'ai adoré, c'est ça remettait vachement en perspective toutes les religions. On questionnait aussi pas mal les concepts, les théories. Donc à côté de ça, t'as de la religion, t'as de la philosophie, tu découvres Nietzsche, genre la philosophie du soupçon, Feuerbach, tout ça, donc plein de questions que tu te poses, et j'en viens un peu pour la faire courte à me dire, en fait je crois que je suis plutôt pas, enfin c'est quoi, athée, je suis plutôt athée, et le fait de me dire ça, ça débloque aussi des choses par rapport à ma sexualité, dans le sens où bah, j'ai tout remis en question sur la religion, sur Dieu, j'en viens, bah, aujourd'hui je crois plus par exemple. Donc c'était tout un cheminement, mais en même temps ça débloque du coup tous les verrous que ça posait à ma sexualité.
Quand tu commences à t'interroger sur ta sexualité, t'as quel âge?
Bah c'est à ce moment-là, j'ai 13-14 ans.
Donc ça coïncide avec l'arrivée en Europe.
Ouais, exactement. Parce que du coup ça c'est le fait de vivre en Europe, enfin de vouloir vivre en Europe aussi, c'était pas, je pense que inconsciemment, j'avais aussi le fait de me dire que je vis dans un pays où l'homosexualité est interdite, criminalisée. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y a aussi de se dire, bah, de vivre en Europe, ça va pouvoir en tout cas te permettre d'explorer ça, en tout cas de te, parce qu'au Cameroun, je me rappelle, c'était même pas une question, c'était genre la moindre pensée sur ce sujet-là, je la supprimais tout de suite. C'était en mode, tu vas te faire limite, on va lire dans tes pensées, on va voir que tu penses à ça, on va venir te chercher. Donc c'est aussi, ouais, je pense, vouloir vivre en Europe, c'était aussi se dire, bah, il y a la possibilité d'explorer, en tout cas se questionner sur ça.
Et du coup, quand tu te poses des questions en Europe, est-ce que tu en parles autour de toi, à tes potes, dans ce lycée d'internat?
Bien sûr que non. Donc, tu sais, en internat, au lycée, c'est aussi t'as vraiment ce truc des mecs, le virilisme, sa plus grande forme. Donc non, bien sûr, et surtout en plus, je pense que je suis un garçon avec efféminé, comme on dit entre guillemets, donc avec une féminité qui est visible, et qui se voyait encore plus, parce que je pense qu'à certains moments, tu fais des efforts pour la cacher. Donc forcément, quand ça se voit, t'as des remarques genre, ah bah, toi t'es pédé, t'es une meuf ou quoi, tu te prends pour une meuf, donc rajouter, enfin tu te dis, hein, si je devais encore en plus parler du fait que ben, c'est même pas, la question se pose même pas, non, tu fermes ta gueule et et c'est des questionnements internes.
Et t'en parlais même pas à ta copine par exemple qui était à Paris?
Non, longtemps j'ai pas du tout parlé du fait que je me pensais homosexuel. La première fois que j'en ai parlé, c'est avec un autre homo rencontré sur ça remonte à 10 ans maintenant, sur des sites de chat, parce que forcément, quand tu commences à te poser des questions, bah, tu, comme tout le monde, je pense, tu tapes sur Google chat gay ou je sais pas quoi pour voir si tu peux rencontrer des gens. Et oui, la première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'étais homo aussi, c'était un interlocuteur sur un chat gay en disant, ah bah oui, je crois que je suis homo, tu vois. Quand je me dis, ok, je pense que je suis homo. C'est une grosse panique en effet, parce que bah, par où tu commences, hein, genre par comment tu vas le vivre. À côté de ça, t'as ta mère qui te fait savoir qu'elle a des plans pour toi, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, parce qu'elle attend à ce que tu te maries, que tu fasses un grand mariage avec qui tu veux, mais en tout cas un grand mariage. C'est la grosse panique, parce que tu dis, mais par où tu commences? à qui tu vas le dire, il y a personne autour de toi, enfin, t'es, en tout cas, à ce moment-là, tu penses ça comme ça. Et, donc je sais qu'à l'époque, je me dis, bon, t'aimes les garçons, t'as envie de, d'essayer des trucs avec les garçons pour voir déjà au même, en fait, si au final, c'est quelque chose qui te plaît. Ce que tu vas faire, c'est trouver des moyens de tester la chose. Mais par contre, quand t'as le bac, tout s'arrête. C'est ce que je me dis dans ma tête, hein. J'ai 14 ans, tout s'arrête. Et là, tu redeviens hétéro, entre guillemets, et t'auras fait tes expériences, et puis voilà. Après, tu rentres dans les, sur le droit chemin, et tu vis la vie qu'on attend pour toi. C'est ce que je me dis à l'époque. Donc, effectivement, je commence à faire des, tu sais, des, je sais que les, à l'époque, le site, tu sais, de rencontres adolescentes, c'était Zaguet, je crois que ça s'appelait. Et, du coup, je fais bien attention à faire, navigation privée, tu te connectes sur Zaguet, tu discutes avec des mecs de la ville. Je crois qu'à l'époque, j'en avais rencontré un. On avait dû, s'embrasser, mais au final, il me plaisait pas, tu vois. Donc, j'étais, tu vois, tu fais un peu des trucs comme ça, tu tâtonnes, et puis, après, tu passes à l'étape, de regarder des films porno gays pour voir, et tu vois, ok, bah, ouais, clairement, ça te stimule. Clairement, c'est pas la même chose que quand tu regardes un mec et une meuf ensemble. Ça commence à s'affirmer en toi et clairement tu commences à cacher une partie de ta vie à ta famille, à qui tu es. Enfin, c'est là que tu commences les premiers mensonges. Je pense à ma tante qui m'avait grillé sur son ordinateur parce que je regardais des films porno et que j'avais oublié d'effacer l'historique et qu'elle me demande. Et du coup, premier mensonge à dire, ah ben non, je crois que c'est des pop-up qui se sont glissés. Enfin, je suis pas allé dessus. Enfin, tu vois, ce genre de truc qui elle te fait.
To be able to blend. That's what realness is. If you can pass the untrained eye, or even the trained eye, and not give away the fact that you're gay, that's when it's realness.
Fanji, looking like the boy that probably robbed you a few minutes before you came to Paris's ball.
The idea of realness is to look as much as possible like your straight counterpart. The realer you look means you look like a real woman or you look like a real man.
Et ce deal que t'avais avec toi-même, pourquoi est-ce que tu t'es dit à 18 ans j'arrête, je redeviens hétéro?
Que c'est l'âge adulte.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est l'âge adulte, c'est le bac et.
T'espérais que ce soit une phase.
Voilà. Mon fond intérieur, je m'attendais à ce que ce soit passager et que. Et limite, je pense que je me disais même, j'aurais fait des trucs et voilà et comme ça j'aurais su et après rentre dans les rangs de ce que ta mère veut pour toi de sauf que donc j'ai passé ma première année en Belgique première année et demie même et du coup j'ai 15 ans et là je rencontre un mec dont je tombe amoureux donc je tombe fou amoureux qui est un ami de mon cousin qui vivait à Bruxelles, donc la capitale de la Belgique, pas loin, du coup à une heure de où j'habitais. Et donc on commence une relation à distance, mais parce qu'en soi il était de Bruxelles et c'est une heure, c'est comme si aujourd'hui à Paris, tu vois, t'étais à Paris et que tu voyais un mec qui habite à Cergy, enfin tu vois, c'est pas l'angoisse. Donc on commence une relation qui durera 4 ans et au fur et à mesure que j'avançais dans cette relation, enfin, jusqu'au bac en fait. Et au fur et à mesure, bah en fait, c'est un peu une évidence, t'es amoureux d'un mec, t'es homo quoi. Et cette relation m'a aussi permis justement d'enlever tous les doutes et de me dire qu'en fait, à un moment donné, il va falloir juste assumer que tu veux vivre avec un mec et que tu te vois dans le futur avec un garçon.
Et pendant ces 4 ans de relation, comment ça se passe avec ta famille? Est-ce que ta mère, elle vient te voir? Est-ce que tu repars au Cameroun aussi? Enfin, pendant ces 4 ans de relation, du coup, t'as deux toits, entre guillemets, quoi. Exactement. Comment toi, t'arrives à gérer ça?
Bah, c'est compliqué. C'est une double vie à un petit niveau, hein, mais... Donc, quand j'étais en Belgique, oui, j'allais au Cameroun 2 fois par an, à Noël et pendant les vacances d'été. Sauf que, du coup, ce mec avec qui j'étais en relation... il était Camerounais comme moi, donc il rentrait aussi pendant les vacances. Donc on se voyait au Cameroun pendant les vacances, et en fait, perpétuellement, c'était un jeu de... quand j'allais chez lui, par exemple, quand on était au Cameroun et que j'allais chez lui, je disais à ma mère que j'allais chez des cousins, chez des machins, enfin... Tu caches, en fait, tout le temps Ou même, je me rappelle une fois, le chauffeur de ma mère au Cameroun m'avait vu dans la rue avec lui, sachant qu'il était plus âgé que moi. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Et j'ai dit, ah, mais non, c'est un ami de... Enfin, tu vois, des mensonges tout le temps, ce qui est pas facile à gérer, parce que du coup, plus tu mens, plus tu stresses. Et c'est un stress continuel que tu t'imposes et qui, je pense, a des répercussions plus tard.
Mais en même temps, c'est un mec qui était en Belgique, qui est camerounais comme toi, donc vous auriez pu être amis, non?
Oui, oh. Mais étant plus âgé...
Mais avec quel de point beaucoup, du coup?
Ouais, il avait 10 ans plus que moi.
D'accord.
Enfin, il est pas mort, il a 10 ans de plus que moi.
Ouais, donc là, t'as 15 ans, il en a 25.
Exactement.
Près. Toi, cette différence d'âge, tu l'as gérée comment?
Alors, au début, j'étais surex de me taper un mec, un vrai mec, grand... plus âgé, en études de médecine, enfin, je me voyais littéralement vivre une vie de housewives dans les années qui allaient venir. Et sauf qu'au final, et c'est plus tard que tu réalises que, en fait, en tout cas je le vois comme ça, c'est pas pareil de sortir et d'être dans une relation avec quelqu'un de 10 années de plus que toi, parce qu'il a pas la même expérience, il a pas la même expérience que toi, il en a largement plus. Donc très vite, on rentrait dans une espèce de domination mentale. C'est-à-dire qu'il avait le dessus sur moi, sur tout. Je pense que j'ai très vite été quelqu'un qui avait un fort caractère, mais même en ayant un fort caractère, il l'exterminait en un regard, en une parole. Enfin, c'était la relation, c'était comme il voulait, ce qui au départ m'allait, sauf que bah, tu continues à grandir. En fait, tu grandis dans ta relation, mais tu grandis en même temps toi personnellement. Donc tu te rends compte qu'en fait, tout me convient pas. Ce qui te convenait te convient plus, parce que bah tu grandis, t'évolues. Et je pense que ça a pas aidé aussi, justement, dans tout ce mindfuck qui se passe dans ta tête, en fait. Et surtout, ça s'est terminé parce que sur 4 ans de relation, il en avait une autre en parallèle pendant 2 ans. Que je n'ai pas vu parce que je voulais pas le voir. Parce que, clairement, c'était assez... il se cachait à peine, mais c'est moi-même qui, volontairement, avait des œillères. Donc, ça faisait partie de tout un système de manipulation, j'ai envie de dire, sans forcément que lui-même s'en rende compte, en fait. Il avait juste le dessus sur moi par son âge, donc son expérience.
Et lui, il était out ? Au Cameroun ou en Belgique?
Non, il n'y est toujours pas d'ailleurs.
Et toi, tu l'es du coup, out?
Aujourd'hui, oui, complètement, parce que j'ai fait mon coming out, enfin ce coming out qui a été un peu forcé, dans le sens où je ne l'ai pas fait moi-même.
Ah bon?
Oui. En gros, donc, du coup, je vivais en Belgique, j'avais une relation avec un mec, donc forcément dans ton téléphone, dans ton ordinateur, il y a des preuves de cette relation-là. Et ma tante en Belgique avait commencé à se douter qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que comme tous les mecs de mon âge, je présentais pas de copines, j'étais en plus efféminé, donc tu vois, forcément tout cette somme de choses fait que ta famille commence à se poser des questions. Et je sais que, je me rappelle même que j'ai toujours eu des espèces de petites piques de tantes, de cousins, de... Ah mais toi, alors les filles, ça se passe comment? T'es sûr que... Et tu dis, non, bien sûr que non. Je suis sûr, jamais. Enfin, tu vois, tu fais des systèmes d'autodéfense comme ça, un peu. Et donc, j'ai cette tante-là qui a des doutes. Qui va forcément, quand t'as des doutes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fouiller dans le téléphone, tu vas fouiller dans l'ordinateur. Et elle voit ce qu'elle cherche. Enfin, elle tombe sur ce qu'elle cherche forcément. Parce qu'en plus à l'époque, enfin, même si tu fais des efforts pour cacher des trucs, il y a toujours à un moment donné des choses qui traînent. Et alors je ne saurais pas comment elle est tombée, mais en tout cas, il s'avère qu'elle est tombée sur une, si je me rappelle bien, une conversation Skype entre mon copain et moi. Elle tombe sur la conversation Skype, elle continue un peu à fouiller continuellement de son côté, un petit truc, un petit là, genre limite récolter des preuves. Donc elle a suffisamment de preuves, elle me confronte en me disant écoute, j'ai trouvé ça, qu'est-ce qui se passe, tu as une vie homosexuelle, je crois que c'était littéralement le terme qu'elle a utilisé. Et donc forcément ta première réaction c'est de nier, je dis tout en bloc, c'est genre mais non, hein. Et donc là elle me sort les trucs, je sais plus quoi dire, elle me dit va te coucher, on va régler ça plus tard. Elle m'en parle pas pendant 2 jours. Le 3e jour, je rentre de l'école, ma mère est dans le salon.
Oh, tiens!
Parce que oui, pour préciser, du coup, c'est en Belgique, enfin, quand c'était la préparation du bac, du coup, j'étais plus à l'internat, je suis rentré, j'étudiais de la maison. Donc oui, ma mère est dans le salon, et du coup, ça crie, ça pleure, enfin, je passe les détails, il est hors de question que j'accepte mon fils aux mots, enfin, je préfère pas avoir de fils, que, enfin, des mots, très durs, mais, en fait, sur le coup, tu te dis juste, enfin, j'ai le bac dans une semaine.
J'ai pas le temps, en fait, de ça, les dramas, là.
Vous pouvez me laisser tranquille. Elle me dit, ok, une fois que le... Elle me dit déjà, bah, si tu voulais passer mon bac tranquillement, t'avais qu'à bien te comporter, tu vois. Bien te comporter, elle comprend, pas être au mot. Pour que tout ça passe, je dis, écoute, oui, j'ai fait des trucs, c'est pas mal. Donc, elle me dit tout de suite, ta relation avec ce mec, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Si ça continue, je veux porter plainte. Forcément, il est majeur, mais mineur. Et donc, tout de suite, moi, je lui envoie un message. Je lui fais, bah, écoute, c'est un peu la merde. J'essaie de tenir au courant, machin. Lui, ça a été un bon soutien pendant cette période-là, même si notre relation s'est terminée peu de temps après ça. Donc, oui, clairement, je fais un espèce de... d'une espèce de promesse en disant bah oui, je vais arrêter, je vais changer, je vais plus être homo, et donc je passe le bac, les résultats sortent, je l'ai, mention nana, donc c'est parfait, ma mère est contente, et elle me fait, bon, ok, ça c'est fait, donc ton histoire d'homo, ça se passe comment? Je redis que bah je vais être hétéro, je vais changer, l'été se passe, on va aux États-Unis, on va au Cameroun, je suis surveillée de près, elle m'avait changé mon téléphone, donc je devais, après le bac, venir à Paris. Ma mère estime, du coup, que c'est mort. Il y a hors de question d'aller à Paris, il fallait que je reste en Belgique où j'allais être surveillée, entre guillemets. Je réussis à négocier à aller en école à Bruxelles. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que, bah, du coup, mon copain est à Bruxelles. Donc là, je commence la rentrée, à Bruxelles, je vis en coloc. Bah, il y a personne pour me fliquer, du coup, je vis un peu ma relation, en faisant quand même des promesses, en disant, bah oui, non, machin. Je me rappelle, à l'époque, elle me fait un espèce d'ultimatum en me disant, bah, dans 6 mois, tu dois me montrer une copine, parce que les garçons de ton âge, ils ont des copines. Donc, je suis là, mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, c'est un peu dur, parce que tu vois, t'as ta nouvelle, t'as l'année après le bac qui commence, ou, et en même temps, ça correspond avec, bah, tout le drama avec mon mec de l'époque. Où j'apprends que bah il me trompait pendant des années, machin, donc notre relation se termine. Il doit être en janvier ou un truc comme ça. Et là, un jour, ma mère qui m'appelle, elle me fait « Je viens à Paris dans 2 semaines. Je suis sûr que t'as toujours pas fait en Europe. Je suis sûr que t'as toujours pas changé. Tout ce que tu me racontes, c'est des bobards. J'en ai marre. Il est hors de question que je finance ton train de vie, ton style de vie d'homosexuel. On arrête les frais. Je te coupe les vivres. » Donc voilà, je commence heureusement sur place à Bruxelles, je m'étais fait un petit réseau d'amis en quelques mois, donc là je pars un peu de la coloc où je vivais du jour au lendemain, je vais créer chez une pote, donc je vis chez une copine à Bruxelles, je donne plus de nouvelles à ma mère, je me trouve un taf de vendeur à Bruxelles, je termine mon année scolaire, et du coup en mai je décide de venir vivre à Paris, parce que bah, au final, enfin, je suis français, et que vu que j'avais réussi à mettre de l'argent de côté, machin, et que bah, j'avais des amis à Paris, bah je viens vivre, je me rappelle, j'avais pris un bus, donc à la fin, une fois que j'avais validé mon année, j'ai pris un bus et j'arrive à Paris, et ouais, je crèche chez une autre copine, et parce que mon père est en Guyane. Pour resituer mon père en Guyane, et il a la retraite, il avait pris sa retraite. Donc, je crèche chez une copine, et là, je passe un peu, enfin, je crois que c'était l'été 2012, je passe vraiment de copine à copine, je crèche un peu partout avec mes 2 valises, toujours pas de nouvelles de ma mère, j'en donne pas, je vois qu'elle essaye de m'envoyer des mails, j'ouvre même pas les mails, enfin, tu vois. On arrive à la rentrée, fast forward à la rentrée, là, je reçois un message de ma petite sœur, par mail, qui me dit, bah, je sais pas trop ce qui se passe, maman me dit rien, mais j'ai pas de nouvelles de toi. Et du coup, forcément, bah, je lui réponds, je lui dis, bah, écoute, je t'appellerai, mais en ce moment, j'ai besoin d'être seule, parce que, bah, avec maman, sans rentrer dans les détails, bah, ça va pas, on se comprend pas sur plein de points. Je crois qu'elle se doutait de quelque chose de ma mère qui part du Cameroun du jour au lendemain, parce que ma petite sœur vivait au Cameroun avec ma mère à cette époque-là. Donc, enfin, forcément, elle se doute qu'il y a un truc qui cloche. Je donne pas de nouvelles. Donc, je commence à avoir une espèce de correspondance avec ma petite sœur. Forcément, ma mère au courant, parce que ma sœur lui dit. Finalement, j'envoie un mail à ma mère en lui disant, bah écoute, ça devait faire 7-8 mois qu'on s'était pas parlé. Je fais, bah, en 7-8 mois, bah voilà, j'ai décidé de réhabiter à Paris, j'habite avec une copine, je travaille, et là, je suis en train de voir comment je peux faire pour mes études à la rentrée, m'inscrire à la fac et tout ça. Et là, elle m'envoie un long mail en me disant, bah écoute, moi, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est ton bien, c'est forcément qu'on me dit que ton fils est homo, quand tu l'apprends, bah c'est pas... Ben pour elle, elle m'explique que pour elle, ben c'est le mal, parce qu'elle associe ça avec une vie de débauche, tu vas avoir le VIH, sida, etc., etc., etc. Donc je me rappelle plus exactement ce qu'elle me dit. Je pense qu'en fait, en plus, toute cette période-là, une partie de ma mémoire l'a vraiment occultée, et c'est hyper flou. Donc elle me dit tout ça par mail, moi je lui réponds que bah en fait je peux pas faire autrement, j'ai pas choisi d'être homo, et que je comprends que ce soit pas en accord avec tout ce qu'elle pense, mais... En attendant, je vais continuer à essayer de me débrouiller, et tant pis au final si ça lui convient pas. Je continue à parler, à échanger par mail un petit peu avec elle, mais surtout avec ma sœur, et elle me dit un jour, bah écoute, je serai à Paris dans les semaines qui viennent, ce serait cool parce que je dois me faire opérer, elle avait une mini-opération pas très grave au niveau pour des fibromes. Parce que, en même temps, elle est dans une période aussi où avec mon père, il se parle pas, et mon père, enfin, j'ai jamais été très proche de lui, au final, mon père, donc, limite de tout ça, il suit de loin. En fait, surtout, tu dis que ta mère va se faire opérer, donc t'oublies un peu tout, donc, t'es en mode, bah, ouais, il faut que je la voie quand même. Donc, elle vient, on parle pas du tout des derniers mois. je l'accompagne à l'hôpital, je vais la voir à l'hôpital, puis finalement, son opération se passe bien, elle habite chez nous, et, elle me dit, bah, tes cours, ça se passe comment? Je lui dis, bah, cette année, c'est raté, mais je vais m'inscrire pour l'année qui suit à la Sorbonne. Et en attendant, je travaille. Elle me dit, bah, ok, bon, je pense que je serai jamais d'accord avec le fait que tu sois homosexuel, mais en attendant, bah, t'es mon fils, et ce que je veux pour toi, c'est le meilleur. Et en même temps, elle voit, du coup, que je vis pas une vie de débauche. Que je vis une vie qui est plus ou moins normale, je travaille et je suis en train de voir ce que je peux faire pour mes études. Et on tombe sur un espèce d'accord en se disant, bah écoute, on va pas parler de ça, je lui impose pas ma vie entre guillemets, mais en attendant, si tu veux être ma mère, il n'y a pas de souci, je veux que tu sois ma mère. Et
I want to dedicate this award to my Uncle Johnny, the most fabulous gay man I've ever known and I ever knew, who helped raise me and my sister. He lived his truth. And he was brave and unapologetic during a time when this country wasn't as accepting. And witnessing his battle with HIV was one of the most painful experiences I've ever lived. I'm hopeful that his struggle served to open pathways for other young people to live more freely. LGBTQI rights are human rights.
Du coup, on retrouve une espèce de relation mère-fils, mais où on se dit pas les choses, où c'est qu'une partie de ma vie qu'elle connaît au final, même si aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a des progrès. On est dans cette espèce d'entre-deux de bon, on a une relation mais à moitié, enfin pas à moitié parce qu'au final on s'entend bien, mais il y a vraiment toute cette partie-là de ma vie qui est occultée, c'est-à-dire que je lui parle pas de mes relations, et je pense que ça lui va et qu'à son fort intérieur elle continue à prier entre guillemets pour que je change, mais voilà, on a cette espèce de d'accord et de compréhension mutuelle. En fait, depuis que j'ai, à cause de tous ces événements-là, pris la décision d'assumer qui j'étais de A à Z et auprès de tout le monde, je me dis que quand elle voudra faire le pas vers ça et vers moi vraiment, elle le fera. Elle sait que quand à chaque fois que j'ai été en relation, elle savait entre guillemets que bah, j'avais un mec, ça me pèse pas du tout de pas lui dire. C'est pas un truc que je me dis j'aimerais qu'elle soit complètement ok, parce que je la comprends aussi son point de vue. Je comprends son point de vue, je comprends d'où elle vient, et je lui en ai jamais voulu pour tout ce qu'elle a pu me dire, qui est des choses violentes qu'elle m'a dit, mais je lui en ai jamais voulu. Pour m'avoir coupé les vivres, je n'en ai jamais voulu. Je lui ai fait payer, mais je n'en ai jamais voulu.
Et du coup, est-ce que tu es retournée au Cameroun? Est-ce que là-bas, ta famille un peu, enfin ta famille éloignée, le sait, ou c'est vraiment un truc que ta mère a tué?
Alors, ma famille, forcément ma tante, qui est la petite sœur de ma mère, qui avait tout découvert, le sait, et elle ne s'est pas gênée de le dire à toute la fratrie de ma mère. Du coup, oui, je suis retournée au Cameroun depuis deux fois. Par respect pour ma mère, on va dire, et parce que ma mère au Cameroun, c'est pas qu'elle est connue, mais elle travaille avec des officiels, des... c'est une femme qui a un certain statut. Par respect, effectivement, je m'affiche pas en tant qu'homo, et même au-delà de ça, je m'affiche pas en tant qu'homo, parce qu'encore une fois, t'es criminalisé, et même si je suis français, je préfère être en dehors des problèmes. Voilà, je fais attention quand j'y suis.
Et ta petite sœur, du coup, elle est au Cameroun, elle est ici?
Du coup, maintenant, ma petite sœur est ici, parce qu'elle a eu son bac, et elle vit en France depuis 2 ans, et elle sait que je suis homosexuel. Pour elle, en fait, ça a toujours été... La question s'est jamais posée pour ma petite sœur, en fait, parce qu'elle a grandi avec un frère homo. Je pense qu'elle a toujours su un peu dans son fort intérieur. Une anecdote que je raconte souvent sans faire le lien entre homosexualité et le fait de jouer au Barbie. Mais bon, on entend ce que je veux dire. J'ai toujours joué au Barbie avec ma sœur. Et en gros, quand elle était petite, une fois, elle va chez une copine. Et elle entend chez sa copine, je sais pas qui dire, les garçons ça joue pas aux poupées, je crois, parce qu'il y avait un petit garçon qui voulait toujours aux poupées avec elle et sa copine. Et là, elle se rappelle, elle fait, comment ça les garçons ça joue pas aux poupées, moi je suis avec mon frère, y a pas de souci, joue avec moi, quoi. Et donc, elle rentre et elle me le dit, mais genre vraiment choquée, genre, ouais, ils m'ont dit que les garçons ça joue pas aux poupées, j'ai dit, mais n'importe quoi, en effet. Et du coup, je lui dis, oui, peut-être qu'à l'extérieur, les gens le comprennent pas aussi bien que toi et moi, tu vois, c'est vraiment notre truc à nous. Mais t'inquiète pas, fais pas attention. Donc, c'est pour dire, en gros, ma sœur, c'est pas grave, hein. Donc, ce qui n'aurait pas pu être le cas, parce qu'en soi, elle a grandi au Cameroun, il y a une société hyper homophobe, mais, je sais pas, pour elle, ça a toujours été normal.
Et donc, quand ta mère te coupe les vivres, toi, ton projet professionnel, c'était quoi? Et est-ce que ça a été compromis par ça?
Donc oui, ça retarde un peu mon projet professionnel, sachant que j'ai toujours voulu être journaliste, que c'était un truc que ma mère ne voulait pas forcément que je sois journaliste, parce que pour elle, c'était pas un métier d'avenir, et surtout, ça rejoint un peu ce que je disais sur ma mère, sur la question de statut. Elle voulait que je sois médecin, banquier, je me rappelle... toute la période seconde première, elle avait découvert le fils d'une amie à elle qui était pétrochimiste, et du coup c'était genre un truc où il gagnait plein d'argent, où qu'elle m'avait dit, il faut que tu sois pétrochimiste, genre, et vraiment je l'avais intégré pendant ces 2 années-là, je disais, ok, bon, comment faire pour être pétrochimiste? Sauf que, et ça se joue un peu, tu commences à t'affirmer, ta sexualité s'affirme, du coup tu t'affirmes toi-même, parce que du coup tu découvres, et tu affirmes tes envies. Et mon envie, c'était que, en fait, je voulais être Anna Wintour. Je voulais être journaliste mode. Donc, après, de pétrochimie, c'est devenu, ouais, écoute, je vais voir ce que je veux être. Non, il faut vraiment. Et donc, quand je lui dis que je veux être journaliste, je dis pas journaliste mode, elle me dit, non, c'est pas un métier d'avenir. Et je réussis à lui faire comprendre qu'en fait, ouais, ok, dans ce cas-là, je vais travailler dans la com, et je réussis à trouver une école de com, du coup, à Bruxelles. L'année que j'ai passée à Bruxelles. Une école de com où j'ai des cours de journaliste. Sauf qu'après, je pars de Paris et je passe un an sans aller à l'école. Et quand je me reprends contact avec ma mère, je réussis aussi à la convaincre, écoute, je vais être journaliste et ça peut être autrement, en fait. Et si c'est pas quelque chose que tu veux, je me débrouillerai de toute façon. Et donc, cette espèce de chantage affectif-là, sachant qu'elle s'en évolue, elle s'en veut toujours de m'avoir coupé les vivres, de pas avoir eu de contact avec moi pendant presque un an. Du coup, elle me paye mon école de journalisme au final.
Et pourquoi tu veux être journaliste mode?
Pourquoi je vais être journaliste mode, je sais pas. Franchement, j'ai toujours voulu être ça et pas autrement, parce que j'ai toujours aimé écrire, l'information, enfin tout ce qui fait en soi l'envie d'être journaliste, je pense, comme tout le monde qui veut l'être. Et en même temps, j'ai toujours aimé toujours été un peu fasciné par la mode, par le luxe, les belles choses, les défilés. Je me rappelle la première fois que j'ai découvert à la télé qu'il y avait c'est quoi Fashion TV, tous les défilés, je passais mes journées dessus, je comprenais rien. À l'époque, je connaissais Dior, Louis Vuitton, parce qu'en même temps, j'ai aussi grandi avec une mère qui aime les vêtements et ces machins-là. Donc, je connaissais les grandes marques. En même temps, je regardais sans comprendre ce que c'était vraiment un défilé. Mais en tout cas, je savais que... enfin. Et en étant adolescent, c'était aussi l'époque des Skyblog, des Skyrock, des Blogspot et tout ça. Donc, j'ai très vite aussi commencé à regarder les blogueuses, les machins. Enfin, ça a toujours été en fait quelque chose que j'ai voulu faire sans... je peux pas te situer le déclic de... Mais je sais que c'est... En fait, quand j'ai su que c'était possible d'allier... ton attrait pour la mode et ton envie d'écrire et que c'était possible d'en faire un métier, bah oui.
Et maintenant que t'as un pied dedans dans ce monde-là, est-ce que ça confirme ce que t'as toujours voulu être ? Journaliste mode.
Oui, donc aujourd'hui j'ai réussi à l'être, j'ai eu la chance d'être journaliste mode. Je suis ravi de faire ça, j'adore ce que je fais au quotidien. Mais après, je pense que tu te rends compte quand t'es dedans, tu te rends compte très vite des travers de ce milieu sur plein d'aspects. Le paraître, les questions de racisme dans ce milieu-là, de classisme, enfin, tous les travers, en fait, oui, tu te rends compte, mais... Et aujourd'hui, du coup, dans mon métier, ce qui m'intéresse quand j'ai la possibilité de le faire, c'est d'aller au-delà des défilés, des tendances, et c'est vraiment... plutôt disséquer ce milieu-là et ces dynamiques qui m'intéressent quand j'ai la possibilité de le faire et l'opportunité.
Est-ce que toi, tu te considères comme un infiltré dans le monde de la mode ? Un infiltré, c'est une personne en général qui va vouloir se fondre dans un univers pour pouvoir le changer, le réformer, selon ses convictions et ses valeurs.
Je pense que je me considère comme un infiltré dans le domaine de la presse mode / féminine. Dans le sens où, de par mes rencontres, mes lectures, mes expériences, je pense que je me suis un peu éveillé à certaines thématiques et à certains sujets, comme on dit sur Twitter, de social justice. Donc, toutes les questions de racisme, d'LGBT-phobie, de féminisme. Je pense qu'en tout cas, dans mon travail et dans les choses que j'écris, et dans même les gens que je côtoie au travail, j'essaye, dès que je peux, et à mon niveau, d'injecter justement tout ce en quoi je crois pour une société la plus égalitaire possible dans mon travail. C'est-à-dire faire attention quand des collègues utilisent certains termes, de leur dire bah, « en fait, ça, non, c'est pas possible ». Et même moi aussi, par exemple, je travaille dans un média où l'écriture inclusive avec les points... Imagine même pas que tu vas le faire, mais j'essaye de faire de l'écriture inclusive d'une autre manière. Écrire celle et ceux et insister pour que ça reste comme ça. Alors j'ai toujours, depuis que je travaille, bossé dans la presse féminine, sauf qu'aujourd'hui je travaille pour un média un peu plus mainstream, entre guillemets. Mais mes premières expériences dans la presse mode, je l'ai fait dans un magazine de mode indépendant qui était adressé... au noir. C'était pour montrer justement les talents, les gens derrière, dans la mode et par extension le luxe, mais pour les noirs. C'était un peu du fait par des noirs pour des noirs. Et ce qui a aussi permis mon éveil sur plein de thématiques et aujourd'hui qui me sert dans le nouveau média dans lequel je travaille. Et je dirais que c'est les deux moyens peuvent et doivent, entre guillemets, coexister, dans le sens où les médias, entre guillemets, de niche qui se lancent, je vais parler pour ce que je connais pour la presse, les médias qui, forcément, c'est plus compliqué d'avoir une grande audience et on va pas se mentir, les médias qui pèsent et qui ont plus d'impact, entre guillemets, plus rapidement, ben, c'est les gros médias et c'est ça que je pense qu'il faut aussi bien de la diversité dans les grands médias, mais il faut pas non plus les attendre, et c'est là où les initiatives qui viennent justement des personnes qui sont pas représentées sont importantes. Et l'idée, c'est que les deux coexistent en soi, parce que tu peux avoir des gens qui veulent de l'information ciblée à un moment donné et puis qui veulent du plus grand public, entre guillemets, à un autre. Enfin, pour moi, les deux ne s'excluent pas.
Et c'est un moyen aussi, je pense, de de faire asseoir une légitimité dans ces médias dits de niche, parce que il y a certains sujets que les grands médias n'auront jamais en exactement. Tête comme ça, et aller puiser cette inspiration-là. Bon, on peut revenir sur tout ce qui est inspiration, appropriation oui. de contenu, etc. Mais au moins, avoir un côté aussi où, de savoir, oui. de contenu, quoi.
Et puis, c'est aussi dire quand c'est un grand média-là se réapproprie les choses, c'est de dire, ah non, mais ça vient de quelque part.
Et c'est déjà sorti, il y a un mois, quoi. C'est déjà sorti,
et puis on sait comment les traiter, on sait comment les traiter avec le moins de biais possible. Et... d'un autre côté, je pense que c'est aussi bien d'intégrer les grandes instances, les trucs plus institutionnalisés, pour, et ça marche dans la presse, mais pour tout, pour changer les choses de l'intérieur. Après, c'est pas facile et c'est...
long.
Oui, et puis c'est à chacun de vous... Je pense qu'il n'y a pas d'impératif à poser sur les gens, c'est à chacun de voir ce qui leur convient le plus en fonction de leur capacité à accepter les choses, encaisser les choses... Never insecure until I met you. Now I'm in stupid. I used to be so cute to me. Just a little bit skinny. Why do I look to all these things to keep you happy? Maybe get rid of you and then I'll get back to me. Hey.
En Belgique, ton premier amour, c'était un Camerounais, du coup. Et j'imagine que ça courait pas les rues. Donc, est-ce que toi, t'avais un tropisme pour les gens qui te ressemblent, ou t'aimais toutes sortes de garçons? Enfin, comment est-ce que la race influe sur tes goûts ou non?
En tout cas, à cette époque-là, je pense pas que la race influait sur mes goûts. Parce que, comme je disais, j'ai grandi entre le Cameroun et la France. Donc, j'ai toujours eu un peu... En fait, en grandissant au Cameroun, tes premiers attraits pour l'autre, fille ou garçon, c'est aussi des noirs, tu vois, et à côté de ça, il y a aussi des blancs qui vivent là. Vraiment, je faisais pas la différence. Donc, quand je rencontre mon premier mec, qui est camerounais, donc noir comme moi, je me pose même pas la question. Enfin, je vois à ce moment-là, je vois vraiment pas le. Je me pose pas cette question-là, en tout cas. C'est après lui, et une fois que je suis venu à Paris, que je commence à me rendre compte de comment la race influe sur les relations, surtout chez les gays. Quand je fais des rencontres, je sais pas comment, mais en tout cas, les premiers garçons que je rencontre à Paris et avec qui j'ai des relations, c'est des blancs. Et je commence à me rendre compte de tout ce qui est les rapports qu'il peut y avoir entre un noir et un blanc qui se voient... des rapports de domination même au sein du couple. C'est-à-dire que souvent, les premiers mecs que j'ai rencontrés, en tout cas, ils me voyaient pas forcément... Ils me voyaient d'abord le fait que j'étais un garçon noir, c'est-à-dire parce qu'ils étaient attirés par les garçons noirs, et que du coup, je devais correspondre à une espèce de profil de garçon noir qui les attirait. Et en même temps, à côté de ça, tu lis des trucs, tu lis des sites américains sur la race, parce qu'ils en parlent de manière plus délibérée là-bas, et je commence à voir les dynamiques raciales au sein d'un couple et dans les rapports sexuels et amoureux entre blancs et noirs.
Et comme tu les identifies, c'est pas un truc qui te pèse?
Sur le long terme, oui, ça commence à me peser. Et encore une fois, je pense que tu te rends compte aussi des rapports raciaux et des dynamiques raciales dans la société. Tu commences à être réveillé à toutes ces questions-là. Et donc, quand ça apparaît dans ton couple, ou en tout cas dans les relations que t'as, oui, ça te saoule. Surtout quand t'essayes d'en parler à l'autre et d'expliquer à l'autre et que tu fais face à un mur, ça contribue encore une fois à ce mindfuck, quoi. Pourquoi est-ce qu'il m'écoute pas? Mais oui, il peut pas m'écouter parce qu'il le vit pas et parce que, pour lui, souvent, tu vas avoir la réponse des mecs qui me disent, mais moi, je vois pas les couleurs, mais par contre, dans leurs attirances, ils voient bien les couleurs. Une espèce de pensée à double vitesse où ça l'arrange de te voir noir quand il projette tous ses fantasmes, mais par contre quand tu parles de les problèmes que tu vis en tant que noir, Là, pour le coup, c'est toi qui psychote ou qui raconte n'importe quoi ou qui t'enferme dans un délire. Je l'ai déjà entendu afrocentriste.
Est-ce que tu penses que tu sais identifier quelqu'un qui est dans l'ordre de la fétichisation ?
Souvent, avec, on en a déjà parlé avec des amis, souvent, quand tu vois que dans son CV relationnel, il y a souvent que des Noirs et des Métis, bah, déjà, tu peux te poser la question. Après, ça veut forcément, à ce niveau-là, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par contre, quand tu rencontres très vite que pour ce mec-là, tu dois correspondre à une idée du noir qu'il se fait, il y a aussi ce côté-là, c'est ce que je te disais, qui s'intéresse pas forcément à ce que tu peux vivre en tant que noir en France en termes d'oppression et d'agression, que ça, il cherche pas à le voir, mais qui se focalise que sur ton corps de noir et que tu n'es final qu'un corps, mais tout ce qui vient avec, bah, ça pourrait être en gros un autre noir ou toi. C'est dans ce cas-là, tu me dis, ah oui, en fait, oui, il me fétichise clairement, quoi. Il a une idée du noir et je suis un noir en plus dans son catalogue.
Et pour en revenir aux questions de racisme et d'homophobie qui peuvent parfois se télescoper,
ouais.
Toi, c'est un truc que tu arrives à faire comprendre à tes amis qui sont gays ou tes amis qui sont noirs, par exemple, que c'est pas pareil, en fait, d'être les deux.
Aujourd'hui, oui, parce que j'ai fait quelque chose, c'est que. Une fois que voilà, j'ai été à l'aise avec moi-même sur tous les plans et sur toutes mes identités, j'ai décidé d'avancer que avec des gens qui comprenaient, en tout cas faisaient l'effort de comprendre ou pas. Quand t'en face quelqu'un qui est donc blanc et qui a vraiment grandi dans cette insouciance de se poser des questions par rapport à la race, parce que c'est ça être blanc au final, c'est vraiment qu'à aucun moment tu te dis que t'es différent, donc à aucun moment tu te poses des questions sur ta propre race et sur la manière dont elle est perçue par les autres. Donc quand tu es en relation avec quelqu'un qui est blanc, je pense que c'est un gros travail de lui faire comprendre que vous n'êtes pas tenus tous les deux à la même enseigne dans la société. Après, je pense que le tout, c'est d'avoir quelqu'un qui a la volonté de vraiment te comprendre, du coup, pas un fétichiste, qui comprend que t'es noir et que ça a en plus une somme d'identité derrière. Oui, c'est ça, il faut bien choisir son mec. Et avoir quelqu'un derrière qui est apte et qui a aussi les outils, je pense. Après, quels outils, ça dépend de son parcours et de son expérience, pour comprendre et accepter que t'es soumis à plus d'oppression que lui.
Paul Arthur, et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force ?
Ce qui me donne de la force, alors ça va sonner bateau, mais c'est vraiment mon entourage et mes amis. Et qui est un peu la famille que je me suis construite du coup au cours de toutes ces années-là et que je continue toujours de construire parce que je rencontre de nouvelles personnes. C'est vraiment ça. Dans ces gens-là, il y a des gens qui m'inspirent, des gens qui me soutiennent, des gens que je soutiens, ce qui t'apporte aussi énormément d'être là pour les gens. Enfin, je pense que c'est vraiment de voir mon entourage, les gens proches de moi avancer et nous voir avancer tous ensemble qui me donne de la motivation au quotidien. Et après, il y a aussi forcément... l'amour que je peux avoir pour ma petite sœur qui me motive vachement aussi à, dans ma tête, je me dis, il faut que je sois un exemple constamment pour elle. La relation que j'ai avec ma mère, que je continue aussi à faire grandir, tu vois. Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment dans ma relation avec les autres proches de moi et que j'aime.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.